Chapitre 11. Les fiancés jouent à chat perché. Quitter à grand fracas une assemblée politique pour marquer un désaccord n'empêcha jamais le protestataire de dîner ensuite à la même table que ses adversaires. En dépit de son éclat du matin, le duc de Bourgogne, dûment prié, accepta de paraître au banquet de famille que le comte de Poitiers offrait ce même jour au manoir de Vincennes. Or, la famille de France, cousinage et dignitaires compris, groupait plus d'une centaine de personnes qui se transportèrent donc à Vincennes et s'assirent entre haute et basse vesprée, c'est-à-dire vers 5 heures de l'après-midi, autour de longues tables à tréteaux couvertes de nappes blanches. La présence du duc de Bourgogne rendait plus marquante l'absence de Robert d'Artois.
« Mon fils est tombé faible en sortant du palais, tant les choses qu'il avait entendues lui avaient donné tourment, » dit Madame Blanche de Bretagne.
« Tombé faible, vraiment ?» répondit Philippe de Poitiers. « J'espère qu'il ne s'est pas blessé en chéant de si haut. » Nul ne s'étonna en revanche de ne pas apercevoir le comte de Clermont, reconduit en hâte à sa demeure aussitôt l'hommage rendu. On félicita Louis de Bourbon de la belle impression qu'avait produite son père, en déplorant que la maladie de celui-ci, noble maladie d'ailleurs, puisqu'elle provenait d'un accident d'armes, ne lui permit pas une participation plus fréquente aux affaires du royaume. Le repas s'ouvrit dans une relative bonne humeur. Le connétable et le duc de Bourgogne avaient été placés à telle distance que le feu entre eux ne put reprendre. Valois pérorait pour son compte. Le plus étonnant en ce dîner était le nombre des enfants, car Eudes de Bourgogne, ayant posé comme condition à sa venue que la petite Jeanne de Navarre serait présente en réparation de l'outrage à elle fait pendant l'assemblée, le comte de Poitiers avait tenu à amener ses 3 filles, et donc le comte de Valois, ses plus jeunes rejetons, et le comte d'Évreux, son fils et sa fille, qui en étaient encore à jouer aux marionnettes, et le dauphin de Viennois, son dauphinier Guigues, fiancé de la 3e fille du régent, et Louis de Bourbon, ses enfants en âge de marché. On ne parvenait pas à s'y retrouver dans les prénoms. Les Blanches et les Isabelles, les Charles et les Philippes foisonnaient. Lorsque quelqu'un appelait « Jeanne », 6 têtes se tournaient à la fois. Tous ses cousins étaient destinés à se marier entre eux, pour servir les combinaisons politiques de leurs parents qui avaient été, eux aussi, mariés de la même façon dans la plus étroite consanguinité. Que de dispenses il faudrait demander au pape pour faire passer les intérêts territoriaux avant les décrets de la religion. Et que d'autres boiteux, que d'autres déments en perspective. La seule différence entre la descendance d'Adam et celle de Capet était qu'en la seconde, on évitait encore de se reproduire entre frères et sœurs. Le dauphinier et sa fiancée, la petite Isabelle de Poitiers, qu'on n'appellerait bientôt plus qu'Isabelle de France, offraient le spectacle de la plus touchante entente. Ils mangeaient au même plat. Le dauphinier choisissait pour sa future épouse les meilleurs morceaux de ragoût d'anguille, en fouillant avec application dans la sauce, et les lui mettait de force dans la bouche, lui barbouillant tout le visage. Les autres bambins les enviaient beaucoup d'avoir déjà une situation de couple. On allait leur constituer à l'intérieur de la maison du régent leur petit hôtel personnel, avec leurs valets à cheval, leurs valets à pied, leurs femmes de chambre. Jeanne de Navarre, elle, ne mangeait rien. Sa présence à ce festin avait été imposée, et comme les enfants sont vifs à deviner les sentiments de leurs parents et à en exagérer les démonstrations, tout le cousinage de cette malheureuse orpheline se détournait d'elle. Jeanne était parmi les plus petits. Elle n'avait que 5 ans. À la seule différence qu'elle était blonde, elle commençait à montrer de nombreux traits de ressemblance, front bombé, pommette haute, avec sa mère. Enfant solitaire qui ne savait pas jouer et vivait entre les domestiques dans les immenses salles vides de l'hôtel de Nel, elle n'avait jamais vu tant de monde assemblé, ni entendu pareille rumeur de voix et de vaisselle. Et elle regardait avec un mélange d'admiration et d'effroi cette débauche de victuailles sans arrêt déversée sur les tables crénelées de forts mangeurs. Elle sentait bien qu'on ne l'aimait pas. Lorsqu'elle posait une question, nul ne lui répondait. Si jeune qu'elle fût, elle avait l'esprit assez développé déjà pour penser
Mon père était roi, ma mère était reine. Ils sont morts et plus personne ne me parle. »
Elle ne devait jamais oublier le dîner de Vincennes. À mesure que le ton des voix montait, que les rires se répondaient, la tristesse de la petite Jeanne, sa détresse dans ce banquet de géants, devenait plus pesante. Louis d'Évreux, qui, de loin, la vit prête à pleurer, lança à son fils.
« Philippe, veille un peu à ta cousine Jeanne. »
Le petit Philippe voulut alors imiter le dauphinier et poussa entre les lèvres de sa voisine un morceau d'esturgeon à la sauce d'orange qu'elle cracha dédaigneusement sur la nappe. Comme les échansons s'employaient à remplir sans cesse les hanapes, il fut bientôt évident que cette marmaille habillée de brocart allait être malade et, dès avant le sixième service, on l'envoya jouer dans les cours. Il advint donc à ses enfants de roi ce qui arrive à tous les enfants du monde lors des repas de fête. Ils furent privés de leurs mets préférés, sucreries, pièces montées et desserts. Aussitôt le festin terminé, Philippe de Poitiers prit le duc de Bourgogne par le bras et lui dit qu'il souhaitait l'entretenir en particulier.
« Allons prendre les dragées un peu à l'écart, mon cousin. Venez donc avec nous, mon oncle, » ajouta-t-il en se tournant vers Louis d'Évreux.
Et il appela aussi Guillaume de Mello, conseiller du duc, afin que les parties fussent à égalité. Il entraîna les trois hommes dans une petite salle attenante, où, tandis qu'on passait le vin sucré et les épices de chambre, il commença d'expliquer combien il désirait parvenir à un accommodement et quels étaient les avantages du règlement de régence.
« C'est parce que je sais qu'à présent les têtes sont fort montées, dit-il, que j'ai voulu repousser les décisions finales jusqu'à la majorité de Jeanne. D'ici là, 10 ans seront passés et vous savez comme moi qu'en 10 années, les opinions changent assez, ne serait-ce que parce que ceux qui professaient les plus violentes peuvent venir à mourir. »
« Je pensais donc, mon cousin, vous servir en agissant de la sorte, et je crois que vous avez mal compris mon dessein. Puisque Valois et vous ne vous pouvez pour l'heure accorder ensemble, accordez-vous chacun avec moi. » Le duc de Bourgogne demeurait renfrogné. Il n'était pas un homme intelligent. Il craignait toujours qu'on ne le voulût tromper, ce qui ne lui évitait pas de l'être fréquemment. La duchesse Agnès, que l'amour maternel n'aveuglait pas, l'avait, avant le départ, solidement sermonnée.
« Prends garde à ne point te faire berner. Ne parle pas avant d'avoir pensé. Et si tu ne penses rien, tais-toi pour laisser parler Messire de Mello, qui a l'esprit plus fin que tu ne l'as. »
Eudes de Bourgogne, à 22 ans et investi des titres et fonctions de duc, vivait encore dans la terreur de sa mère, et tremblait d'avoir à se justifier devant elle. Il n'osa répondre de front aux ouvertures de Philippe.
« Ma mère vous a fait tenir une lettre, mon cousin, par laquelle elle vous disait...
Que disait cette lettre, messire de Mello ?»«
Madame Agnès demandait que Madame Jeanne de Navarre fût remise à sa garde, et elle s'étonne, monseigneur, que vous ne lui ayez point encore fait réponse.
Mais comment le pouvais-je, mon cousin ?» répondit Philippe, s'adressant toujours à Eudes comme si Mello n'avait joué entre eux que le rôle d'interprète d'une langue étrangère.
C'est une décision qui relève de la régence. Me voici aujourd'hui seulement en mesure de faire droit à cette requête. Qui vous prouve, mon cousin, que je songe à refuser? Vous emmènerez, je pense, votre nièce avec vous.
Le duc, tout surpris de trouver si peu de résistance, regarda Mello, et son visage semblait dire « Mais voici un homme avec lequel on peut s'entendre. »
« À condition, mon cousin, reprit le comte de Poitiers, à condition, bien sûr, que votre nièce ne soit pas mariée sans mon consentement. C'est là, chose évidente, l'affaire intéresse trop la couronne, et vous ne pourriez vous passer de notre avis pour donner époux à une fille qui peut devenir un jour reine de France. »
La seconde partie de la phrase fit passer la première. Eudes crut vraiment qu'il était dans l'esprit de Philippe de faire couronner Jeanne, si la reine Clémence n'accouchait pas d'un fils.
« Certes, certes, mon cousin, dit-il. Sur ce point, nous sommes bien dans l'agrément. Alors, rien ne nous divise plus et nous allons signer un bon accord, dit Philippe.
Sans attendre, il fit mander 1000 de Noyers, qui avaient la meilleure plume pour rédiger ce genre de traité.
Veuillez, messire, lui dit-il, nous coucher ceci sur Vélin.
Nous, Philippe, père et comte de Poitiers, régent des deux royaumes par la grâce de Dieu, et notre bien-aimé cousin, magnifique et puissant seigneur Eudes IV, père et duc de Bourgogne, nous jurons sur les saintes écritures de nous rendre bon service et loyale amitié. C'est l'idée, messire de Noyers, qu'en gros je vous exprime là. Et par cette amitié que nous nous jurons, avons en commun décidé que madame Jeanne de Navarre... Guillaume de Mello tira le duc par la manche et lui dit un mot à l'oreille, à quoi le duc comprit qu'il était en train de se laisser jouer.
« Eh, mais mon cousin, s'écria-t-il, ma mère ne m'avait point autorisé à vous reconnaître pour régent. »
On fut bientôt dans l'impasse. Philippe ne consentait à se dessaisir de l'enfant que si le duc avalisait le règlement de régence. Il offrit diverses garanties, mais l'autre s'obstinait. C'était sur les droits à la couronne qu'il exigeait un engagement formel.
S'il n'y avait point ce Mello qui est rusé, pensait le comte de Poitiers, Eudes aurait déjà capitulé. Il feignit la fatigue, étendit ses longues jambes, croisa les pieds l'un sur l'autre, se frotta le menton. Louis d'Evreux observait et se demandait comment son neveu pourrait se tirer d'affaire.
« Je vois bientôt des lances s'agiter du côté de Dijon », se disait cet homme sage. Il était sur le point d'intervenir pour conseiller « Allons, cédons sur les droits de la couronne », lorsque Philippe demanda soudain au bourguignon. « Voyons, mon cousin, n'avez-vous pas désir de vous marier ?»
L'autre ouvrit des yeux ronds, croyant d'abord, car il n'était pas vif, que Philippe envisageait de le fiancer à Jeanne de Navarre.
« Puisque nous venons de nous jurer éternelle amitié, » reprit Philippe comme s'il tenait pour acquises les quelques lignes restées inachevées, « et que par là, mon cher cousin, vous me donnez grand appui, je voudrais vous faire à mon tour belle manière, et j'aurai plaisir à doubler notre lien d'affection par plus étroite parenté. Que ne prendriez-vous en mariage, ma fille aînée, Jeanne ?»
Eudes IV regarda Mello, puis Louis d'Evreux, puis 1000 de Noyers qui attendaient, le calame levé.
« Mais, mon cousin, quel âge a-t-elle » demanda-t-il.
« Elle a 8 ans, mon cousin, » répondit Philippe, qui prit un temps, puis ajouta. « Elle peut avoir aussi la comté de Bourgogne qui nous vient de sa mère. »
Eudes releva la tête comme un cheval qui sent l'avoine. La réunion des deux Bourgognes, le duché et la comté. Les ducs héréditaires ne cessaient d'en rêver depuis le temps de Robert Ier, petit-fils de Hugues Capet. Joindre la cour de Dole à celle de Dijon, unir les territoires qui allaient d'Auxerre à Pontarlier et de Mâcon à Besançon, avoir une main en France et l'autre vers le Saint-Empire, puisque la comté était palatine, ce mirage devenait-il soudain réalité? La route de l'Empire s'ouvrait et ses vieux prestiges carolingiens.
Louis d'Evreux ne put s'empêcher d'admirer l'audace de son neveu. Dans un jeu qui semblait perdu, c'était grosse relance qu'il faisait là. Mais à y regarder de plus près, le raisonnement de Philippe se concevait sans peine. Il ne proposait finalement que les terres de Mao. On avait donné à celle-ci l'Artois aux dépens de Robert pour qu'elle lâchât la comté. On avait fait glisser à Philippe, par la dot de sa femme, la comté, pour qu'il pût postuler à l'élection impériale. Maintenant, Philippe guignait la couronne de France, ou tout au moins la régence, pour 10 ans à courir. La comté avait donc moins de raison de l'intéresser, à condition qu'elle n'allât qu'à un vassal, ce qui était le cas.
« Pourrais-je voir, madame, votre fille ?»
demanda Eudes aussitôt et sans plus songer d'en référer à sa mère.
« Vous l'avez vue tout à l'heure, mon cousin, au repas. »
« Certes, mais je l'avais mal regardée. Je veux dire, je ne l'avais point considérée de cet œil. »
On envoya chercher la fille aînée du comte de Poitiers, qui était occupée à jouer à chat perché avec les autres enfants.
« Que me veut-on ? Qu'on me laisse à rire ? »
dit la petite fille qui poursuivait le dauphinier du côté des écuries.
«
Monseigneur votre père vous requiert, lui dit-on.
Elle prit le temps d'attraper le petit Guigues, de lui crier « chat » en le frappant dans le dos, et puis suivit, boudeuse, mécontente, le chambellan qui la prit par la main. Encore tout essoufflé, les joues moites, les cheveux sur le visage et sa robe brochée couverte de poussière, elle se présenta ainsi à son cousin Eudes, qui avait 14 ans de plus qu'elle. Une petite fille, ni laide ni jolie, encore maigriotte, et qui ne se doutait nullement que son destin se confondait en cet instant avec celui de la France. Il est des enfants qui donnent tôt à deviner la mine qu'ils auront adultes. Sur celle-ci, on ne distinguait rien. On ne voyait que la comté de Bourgogne en auréole. Une province est belle chose, encore faut-il que la femme ne soit pas difforme. Si elle a les jambes droites, j'accepte, se dit le duc. Il était bien placé pour se défier de cette sorte de surprise, puisque sa seconde sœur, la cadette de Marguerite, qu'on avait mariée à Philippe de Valois, n'avait pas les talons à la même hauteur. Dans l'animosité présente des Valois envers la Bourgogne, cette boiterie-là, qui n'apparaissait pas au contrat, entrait pour quelque chose. Le duc demanda donc, sans que cela parût surprendre personne, qu'on voulût bien relever les jupes de l'enfant pour juger de la façon dont ses pieds étaient faits. La petite n'avait pas la cuisse ni le mollet gras, elle tenait de son père, mais l'os était bien droit. « Vous avez raison, mon cousin, » dit le duc. « Ce serait la bonne façon de sceller notre amitié. »«
Vous voyez bien, » dit Poitiers.
« Ne vaut-il pas mieux cela que de se quereller ? Je veux désormais vous appeler beau-fils. » Il lui ouvrit les bras. Le gendre avait, à 30 mois près, l'âge de son beau-père. « Allez, ma fille, allez à votre tour baiser votre fiancé, » dit Philippe à l'enfant.
« Ah, il est mon fiancé, » dit la petite.
Elle se redressa d'un air orgueilleux.
« Eh, mais, » ajouta-t-elle, « il est plus grand que le Dauphiné. »
« Comme j'ai bien agi le mois dernier, » pensait Philippe, « en ne donnant au dauphin que ma 3e fille, » et en gardant celle-ci qui pouvait disposer de la comté. Le duc de Bourgogne dut soulever sa future épouse jusqu'à ses joues afin qu'elle y posât un gros baiser mouillé. Puis, dès qu'elle eut retouché terre, elle partit vers la cour pour annoncer fièrement aux autres enfants
« Je suis fiancée !»
Les jeux s'interrompirent.
« Et pas un petit fiancé comme le tien, »
dit-elle à sa sœur en désignant le Dauphiné.
« Le mien est grand comme notre père. »
Puis, apercevant la petite Jeanne de Navarre qui boudait, un peu à l'écart, elle lui lança.
« Maintenant, je vais être ta tante. »«
Pourquoi ma tante ?»
demanda l'orpheline.
« Parce que je serai la femme de ton oncle Eudes. »
Une des dernières filles du comte de Valois, déjà dressée à tout répéter, se précipita dans le château, trouva son père qui complotait en compagnie de Blanche de Bretagne et de quelques seigneurs de son parti, et lui rapporta ce qu'elle venait d'entendre. Charles se leva, rejetant son siège derrière lui, et fonça tête en avant vers la pièce où se tenait le régent.
« Ah, mon cher oncle, vous êtes bienvenu, » s'écria Philippe de Poitiers. « J'allais justement vous faire mander pour être témoin de notre accord. »
Et il lui tendit l'acte dont Mille de Noyer venait de terminer ainsi la rédaction.
« Pour signer ici avec tous nos parents les conventions que nous venons de faire avec notre bon cousin de Bourgogne et par lesquelles nous nous accordons sur le tout. »
Amère semaine pour l'ex-empereur de Constantinople qui n'eut qu'à s'exécuter. À sa suite, Louis d'Évreux, Mao d'Artois, le dauphin de Viennois, Amédée de Savoie, Charles de la Marche, Louis de Bourbon, Blanche de Bretagne, Guy de Saint-Pol, Henri de Sully, Guillaume d'Harcourt, Anceau de Joinville et le connétable gaucher de Châtillon apposèrent leurs seins au bas des conventions. Le tardif crépuscule de juillet tombait sur Vincennes. La terre et les arbres restaient imprégnés de la chaleur de la journée. La plupart des hôtes étaient partis. Le régent alla faire quelques pas sous les chênes, en compagnie de ses familiers les plus dévoués, ceux qui le suivaient depuis Lyon et avaient assuré son triomphe. Il plaisantait un peu sur l'arbre de Saint-Louis qu'on ne parvenait pas à retrouver. Soudain, le régent dit « Messeigneurs, j'ai douce joie au cœur. Ma bonne épouse, ce jour, a mis au monde un fils. » Il respira profondément, avec bonheur, avec délices, et comme si l'air du royaume de France lui avait vraiment appartenu. Il s'assit sur la mousse. Le dos appuyé à un tronc, il contemplait la découpure des feuilles sur le ciel encore rose lorsque le connétable de Châtillon arriva à grands pas.
« Je viens vous porter une mauvaise nouvelle, » dit-il.
« Déjà ?» fit le régent.
« Votre cousin Robert s'est emparti tout à l'heure pour l'Artois. »